il y a du direct dans l'air.
Un imprévu presque prévu, fallait quand même bosser le sujet.
Tout de suite,
l'impromptu direct des Barthas.
Sur le 107 et sur radiobarthas.net.
Tous et nous sommes effectivement en direct avec Radio Barthas et cette année nous sommes au Vigan pour la traditionnelle journée avec le parc qui, comme vous le savez, se déplace chaque année de commune en commune. Donc après Anduze l'année dernière, nous sommes en direct du Vigan. Donc et je suis comme d'habitude en compagnie de Ben de Radio Barthas que je salue.
Bonjour Natacha, bonjour tout le monde et bonjour aux copains de Radio Escapade.
Et nous sommes également en direct sur Radio Escapade, donc radio qu'on remercie également chaleureusement. Et pour débuter cette émission, donc je suis en compagnie de Sylvie Arnal, maire du Vigan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Jérôme Sauveplan, donc vous êtes adjoint à l'environnement à la mairie du Vigan.
Bonjour, oui.
Et de Vincent Clignès, donc directeur du parc national des Cévennes. Bonjour. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Madame Arnal, ce week-end, le Vigan fête la nature. Donc ça a commencé hier, ça se poursuit jusqu'à demain. 4 manifestations organisées sur 3 jours. Le Vigan, c'est The Place to Be.
Exactement, ce week-end, c'est The Place to Be. Le Vigan est au cœur des événements. Donc, 4 très beaux événements sur notre ville. Et c'est une véritable chance et je suis ravie de les accueillir, tous les 4.
Donc, je les rappelle, donc les journées mycologiques qui se déroulent en ce moment, la fête de la forêt, la journée avec le parc et demain, donc, ce sera la foire miel et frigoules. Alors, pourquoi avoir organisé ces 4 événements ?
Alors, le miel et frigoules et les journées mycologiques, donc c'est chaque année que nous fêtons ces deux événements. Et cette année, donc, la fête du parc et la fête de la forêt ont fait escale au Vigan. Et c'était très intéressant et c'était très important de les coupler et d'avoir ces 4 événements en même temps. Donc, c'est une très belle... c'est une chance.
Jérôme Sauveplan, donc ces 4 événements sont rassemblés sous la fête de la nature. Donc en tant qu'adjoint à l'environnement, à la nature, c'est un peu une vitrine du Vigan.
Oui, oui. Et alors, juste une petite précision, c'est pas la fête de la nature, c'est le Vigan fête la nature.
Pardon.
Oui. C'est fête de la nature, il y en a déjà plein. Et voilà. Non, c'est juste. Moi je suis ravi parce qu'en fait. Le dénominateur commun de ces 4 événements, effectivement, c'est la nature. Et dans la nature, on voit que il y a finalement pas tellement de compétition, mais plutôt de la synergie, de la coopération. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de mutualiser. Il fait beau, le soleil est avec nous, et donc ça promet une belle réussite.
Mais on a vu déjà pas mal de monde ce matin.
Oui, oui.
Et donc, parmi ces événements, et celui qui nous concerne, donc la journée avec le parc, Vincent Clignès, c'est votre deuxième journée avec le parc en tant que directeur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi cette manifestation ?
Oui, tout à fait. Et en complément de ce qu'il vient de dire, c'est que quand on nous a proposé de faire quelque chose de collectif, on a tout de suite dit oui, parce que ça nous paraissait important, parce que le parc, c'est avant tout un collectif avec le territoire, avec les acteurs du territoire. Et ensemble on va beaucoup plus loin, et là effectivement les synergies nous ont permis d'avoir quelque chose de plus grande ampleur. L'année dernière on était effectivement à Anduze, les journées avec le parc une fois par an, c'est des journées pour que le parc se rapproche des gens du territoire. Donc on était à Anduze, à nouveau une ville porte le Vigan aujourd'hui, où c'est important de rappeler, d'être à la rencontre des habitants, c'est vraiment notre cible première. Pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le parc, parce que c'est pas toujours évident, de connaître un peu ce qu'on fait, et de nous rencontrer, de nous poser des questions. Donc ce soir, on aura à 17h un apéro débat où on présentera un peu en grande ligne le parc, et puis on répondra aux questions. Et puis on a aussi un événement quand même très important, national pour les parcs nationaux, mais décliné aussi dans le parc national des Cévennes, c'est les 10 ans de la marque Esprit Parc. Donc on est très très fiers d'avoir très bien fonctionné sur cette marque, puisqu'on est le parc national le plus marqué, entre guillemets, par à la fois des produits et des prestations locales de grande qualité, reconnues, qui montrent aussi qu'un parc national, ça accompagne aussi l'économie. On est évidemment un parc naturel, qui protège la nature, mais on protège aussi les patrimoines et les activités humaines, quelles qu'elles soient, et notamment la production de produits locaux de qualité.
Est-ce que j'ai entendu dire que le Vigan était la plus grosse commune du parc, c'est exact ?
Oui, je crois. C'est en nombre d'habitants. Oui.
Ouais. Ça représente quoi, en fait, de travailler? Parce que, bon, le parc, c'est à Florac. J'ai eu la chance de venir ce matin, de faire cette route absolument magnifique entre Florac et ici. Justement, quelles sont les interactions que vous pouvez avoir? Parce que ça fait quand même une heure et demie de route, etc. Comment vous travaillez ensemble?
Alors, effectivement, on travaille ensemble parce que le parc, il est effectivement, le siège est à Florac, mais nous avons une antenne au Vigan. Donc, on a une équipe au Vigan avec quelqu'un qui coordonne les choses, hein, Célia Villaret, que vous connaissez tous ici localement, mais aussi des équipes pour l'animation, des équipes pour la forêt, enfin, et nos gardes moniteurs, hein, qui sont les plus connus, c'est ceux qui arborent le signe distinctif du parc sur le terrain. Alors, effectivement, ils interviennent beaucoup plus en chœur qu'en aire d'adhésion, mais l'aire d'adhésion nous intéresse beaucoup parce que c'est aussi pour la qu'on est là, parce que c'est qu'on qualifie de solidarité écologique, et la commune du Vigan fait partie des communes qui adhèrent totalement à la charte du parc, et adhérer à la charte du parc, c'est pas seulement signer un document, c'est faire ensemble des choses qu'on fait depuis des années, hein. Moi je suis là depuis un an et demi, c'est ma deuxième journée, mais je mesure depuis un an et demi tout le travail qui est fait avec ces communes périphériques, le Vigan en particulier, qui est totalement en phase, et quand on est en phase, ça va beaucoup mieux et on arrive à faire des choses très intéressantes en partageant nos efforts.
Justement, donc, quels sont les projets, hein? On parlait de fédérer, donc il y a le Vigan a adhéré à la charte du territoire du parc, donc il y a des engagements pris par les communes, justement, pour mener des projets conjoints. Alors, quels sont les grands projets menés par le Vigan?
Ça fait déjà une paire d'années. On travaille sur l'éclairage public, notamment. Parce que nous, on fait partie de la réserve internationale de ciel étoilé, qui est une des plus grandes d'Europe, peut-être qu'il est la plus grande d'Europe d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, le parc nous accompagne via des subventions, des conseils sur la réduction de la pollution lumineuse. Ça, c'est un exemple de projet à long terme. Et après, dans l'actualité, là tout de suite, on a un chantier pierre sèche qu'on a réalisé toute la semaine. Et du coup, en collaboration avec le parc, et donc on réfléchit éventuellement à aller plus loin dans le développement de la pierre sèche localement, comme vitrine aussi.
Sylvie, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, moi je dirais aussi que dans le cadre de la charte, nous avons à cœur de faire participer donc des artisans et de mettre en avant des artisans locaux. Je pense au collectif Potocopo, donc qui travaille le bois de châtaignier en particulier. Donc la mairie, la collectivité a déjà travaillé avec eux et travaille avec eux donc pour différents chantiers. Et nous avons vraiment cette vraie volonté de valoriser cette filière-là.
Très bien. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport au projet conduit?
J'ai envie de dire que ça continue dans le bon sens. Tout ce qui, voilà, c'est
ça ne peut aller que dans le bon sens.
Voilà. Et après, il y a tous les dans le cadre de la charte, il y a aussi des recommandations d'harmonisation, de respect du paysage, qui par exemple, là, on est en train de travailler sur la signalétique. Donc le parc national a toute une charte de sur la signalétique. Et voilà, c'est vrai que ça fait aussi un territoire cohérent quand on va d'une commune adhérente à l'autre. Et ça permet de protéger les paysages, ce qui est aussi au cœur du parc.
En tout cas, en me baladant ce matin dans le Vigan, là, j'ai vu donc la vie. Évidemment, il y a le marché, plein de musiciens, etc. Enfin, sa vie, est-ce que c'est tout le temps comme ça? Est-ce qu'il fait bon vivre au Vigan? Alors, oui, je sais que la réponse paraît évidente, mais est-ce qu'en tout cas, c'est comme ça toute l'année? Est-ce que...
On peut dire que c'est comme ça toute l'année, oui, de la musique, un marché très animé, un très très beau marché, avec beaucoup de produits locaux, beaucoup de maraîchers, beaucoup de producteurs de produits locaux et qu'on aime mettre en avant, et notre marché est un des plus beaux marchés.
Bon, là, les municipales approchent forcément, donc je ne vais pas vous poser la question si vous représentez ou pas, mais en tout cas, pour la mandature que vous avez faite, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? Est-ce que vous avez eu des retours aussi des habitants? Comment s'est passé?
Je ne vais pas vous dire le contraire, mais je pense ne pas avoir à rougir du bilan qui a été fait sur ce mandat.
Mais bravo à vous alors.
Et en tout cas, on vous remercie, donc Sylvie Arnal, Vincent Clignez. On vous retrouve donc ce soir pour l'apéro débat, donc ce sera de 17h à 18h30 à l'espace Lucie Aubrac, et donc les participants pourront poser toutes les questions donc, qui concernent le parc ou la mairie. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. love to be someone. Whoops, all that's alright. All I want is be left alone. Left alone, alone, left alone, left alone, left alone, alone, left alone, left alone, left alone, alone, left alone, left alone, left alone, left alone. Cannot swallow blue felt brow. More than that, my sleep is wild. All I need is softened bones. Breathing sorrow. Go to watch you faking now. Well, I'm freaking, I come down. And I take it while I lost. Breathing sorrow. Go to watch you faking now. Well, I'm freaking, I come down. And I take it while I lost. Breathing sorrow.
Donc nous sommes de retour dans les bureaux de l'Office de tourisme qu'on remercie d'ailleurs donc pour ce direct depuis le Vigan pour la journée avec le parc et qui est également diffusé donc sur Radio Escapade. Et nous allons maintenant parler de la marque Esprit Parc National donc qui souffle cette année ses 10 bougies. Et donc à ce jour, ça représente plus de 160 prestataires touristiques et producteurs donc qui sont engagés dans cette démarche, et ça représente plus de 300 produits estampillés, donc que ce soit dans l'hébergement, les séjours, la restauration, les sorties, les sites de visite, le maraîchage, le miel, la viande et ou le vin. Et donc pour en parler, je suis en compagnie de Gaëtan Rayan. Bonjour.
Bonjour.
Du GAEC de l'AISU, donc qui est basé à Montagu. Et je suis également en compagnie de Manuel Jacquet. Bonjour.
Bonjour.
Donc qui est à Pas de Loup, c'est le nom de votre société. Et vous organisez des sorties, mais pas trop sur le Vigan, hein, plus sur le Mont-Lozère, hein, il me semble.
Exactement, plus du côté de Villefort.
Voilà. Et donc, je suis également en compagnie de Edwige de Ferrodi, qui est donc chef du service accueil et sensibilisation, et qui chapeaute un peu la marque.
Bonjour.
Bah, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Donc, Gaëtan Rayan, vous étiez sur le marché ce matin pour vendre vos légumes de saison, mais également du miel. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre exploitation ?
Ben oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Gaëtan Rayan. Donc, je suis associé avec mon frère, donc on est en GAEC. Donc, on était sur la culture de l'oignon doux des Cévennes et de la châtaigneraie. Donc, on revalorise les châtaignes traditionnelles qui étaient sur l'exploitation. Et il y a 2 ans, j'ai repris l'exploitation d'apiculture de mon beau-père. Donc, c'est là que, du coup, qui était lui adhérent à l'Esprit Parc. C'est comme ça que, du coup, j'ai appris connaissance de l'Esprit Parc. Et du coup, vu qu'on était déjà engagé, j'ai fait la continuité. Et du coup, on a transmis toute l'exploitation du coup, à l'Esprit Parc. Donc aujourd'hui, on a le miel forcément qui est estampillé, mais aussi tous les produits châtaignes. Donc on fait des marrons naturels, des confitures, des pâtes à tartiner, des terrines, tous les produits qu'on peut faire. Et le maraîchage qu'on fait à petite quantité. Donc c'est vraiment, le maraîchage, c'est vraiment un petit plus pour compléter le marché, pour compléter l'offre. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est dans l'esprit, on trouvait ça super intéressant. Où on est quand même aussi sur les AOP, sur le bio, mais c'est un complément par rapport localement, ça parle aux gens un petit peu, quoi.
Mais c'est du boulot, tout ça.
Il y a un petit boulot d'administratif, c'est sûr, mais...
Mais pas que, enfin, du boulot, l'exploitation, j'imagine, depuis 2 ans, enfin, voilà.
Oui, du coup, c'est vrai qu'on était vraiment sur une monoculture, donc c'est vrai qu'il y a ses avantages d'être en monoculture, parce que du coup, on n'a qu'une culture à s'occuper. Bon, après, il y a les soucis de faire tourner les terres, faire des rotations. Et voilà, après, c'était en monoculture, toujours pareil, une exploitation. Quand on est en monoculture, si l'année que ça ne marche pas, elle est en danger financièrement. Donc l'idée, c'était de se diversifier. Donc là, on est vraiment parti sur la diversification très large. Mais bon, c'est vrai que j'avoue, le timing est assez serré. On a passé une grosse saison où on dort très peu. Bon, après, c'est maintenant, nous, voilà, on est jeunes, on a une jeune exploitation qui a été créée en 2016, donc on n'a pas encore 10 ans d'existence. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre les ruches et les cultures maraîchères, et puis ça va bien se passer.
Et vous êtes que deux à travailler sur l'exploitation, donc avec votre frère ?
Donc oui, on est deux associés, mais après, on fait appel à beaucoup de saisonniers, donc surtout sur l'oignon qui demande pas mal de main-d'œuvre pour la plantation et la récolte. Après, du coup, moi, je suis plutôt dans la gestion, le suivi des cultures, le suivi des abeilles et autres. Et après, on prend du personnel pour faire tous les travaux répétitifs. Par exemple, sur la partie miel, par exemple, tout le travail de miellerie, et du coup, c'est une personne qui s'en occupe. Donc voilà, après, on arrive. Ouais, c'est toujours compliqué de trouver du personnel, mais on y arrive.
Alors justement, c'est une jeune exploitation, on a quand même pas mal de représentativité du monde agricole, hein, peut-être beaucoup de clichés. Est-ce que ça va pour vous ? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir ? Ou alors est-ce que c'est compliqué pour pas mal d'exploitations en France aujourd'hui ?
Du coup, je pense qu'on se démarre parce qu'on est quand même sur la culture de moyenne montagne. Donc en fait, tous les produits qu'on fait, on sait les valoriser au maximum. Donc c'est vrai que on est à fond sur les labels AOP. Par exemple, l'AOP Oignon Nous des Cévennes, c'est ce qui a permis aujourd'hui à cette culture-là de remonter la pente. On fait pareil, moi je suis pareil dans la démarche de Châtaigne des Cévennes AOP. On fait aussi en bio sur le miel et tout ce qui est verger. Voilà, en fait, aujourd'hui, on essaie de proposer un produit de haute qualité. Donc, en fait, que ce soit tous les produits, la châtaigne, on ne va pas faire des châtaignes, on va dire, de forcément grosses, ou des châtaignes hybrides, on dit plutôt ces châtaignes traditionnelles qui se démarquent par rapport à leur partie gustative. Donc, voilà, le but, c'est valoriser au maximum notre production, quoi.
Puis l'air du temps, donc ça veut dire que les gens vont de plus en plus vers des produits de qualité, donc c'est parfait quoi. Enfin, faut le sauter en tout cas.
Après, voilà, le marché du vegan, quand je me suis installé, je voulais pas entendre parler de marché, on était plutôt sur faire des gros volumes. Aujourd'hui, on change un petit peu de voie, justement, le rapport clientèle, c'est énorme quoi. Surtout, on a un supermarché au vegan qui est très attractif, que ce soit l'été. Bon, l'hiver, c'est toujours un peu plus calme, mais c'est vrai que c'est Et en fait, les gens nous demandent certains produits, et du coup, voilà, par rapport à la culture de l'oignon, on peut faire des rotations, mais voilà, du coup là en ce moment on fait des choux l'hiver que jamais j'aurais eu l'idée de le faire avant quoi. Et c'est vrai que on part un peu de la demande de la population pour s'adapter en fonction des demandes quoi.
Et vous aviez donc ce matin sur le stand donc la pancarte Esprit Parc, les étiquettes, enfin il y avait tout hein. On vous pose des questions, enfin ça vous aide à commercialiser, à vendre vos produits sur le marché?
Tout, en fait, pour moi, chaque logo, ça amène des sujets de discussion avec les gens, et c'est ce qu'on recherche. En fait, c'est trouver un moyen de discuter avec les gens, quoi. Et que ce soit Esprit Parc, que ce soit... Je prends un exemple simple, on réutilise les pots de miel, donc du coup, les gens nous rapportent les pots gratuitement, et rien que ça permet de créer des liens avec les clients, parce que du coup, ça fidélise aussi, parce qu'ils sont obligés de revenir pour ramener le pot.
Il faut qu'ils reviennent.
Donc, c'est des petits détails qui permettent aussi de créer un lien avec les gens, avec les clients, et de valoriser les produits qu'on vend, quoi.
Merci Gaëtan. Manuel Jacquet, donc vous, c'est pas de la production agricole, hein, vous êtes dans le secteur touristique, donc vous proposez hein, des sorties. Donc il y a une soirée astro, soirée Brame du Cerf sur les traces des animaux. Donc là, on est en pleine période de Brame du Cerf, donc ça marche bien les sorties sur le Mont-Lozère.
Oui, effectivement, ça attire beaucoup de monde. Là, on est plutôt sur la fin de la période, du coup.
Oui, c'est vrai qu'on...
Mais non, la saison a été très bonne et c'est vrai que oui, c'est un des trucs qui attire beaucoup les gens justement dans la nature. C'est un événement, je pense, un peu incontournable. En tout cas, des gens qui habitent autour et qui montent exprès sur les Goales, qui montent sur le Mont-Lozère pour aller écouter le Brame. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens oui, qui prennent un guide. Justement pour pouvoir respecter un peu plus aussi la nature, pour avoir aussi les bons spots où on peut souvent mieux entendre, et pour avoir toutes les explications qui vont avec, parce que c'est chouette de l'écouter, mais c'est chouette aussi de comprendre un peu comment ça fonctionne et d'avoir quelqu'un qui répond à toutes les questions.
Oui, comment vous sensibilisez le public? Enfin, typiquement, la sortie, elle se passe comment?
On se rejoint assez tôt en fin d'après-midi, pour pouvoir justement avoir déjà un temps d'échange sur le cerf Je fais souvent des tours, voilà, pour savoir un peu où en sont les gens là-dessus, qui posent chacun un peu leurs questions, puis j'essaie de faire un petit point général ensuite. Et ensuite, on fait souvent des affûts, c'est-à-dire qu'on va se poster à un endroit, souvent en lisière un peu de forêt, sur un point un peu haut. Et après, j'ai des jumelles, j'ai une longue vue, ce qui permet de rester assez loin aussi. Mais ça n'empêche pas, vu comme ça résonne, on l'entend bien. Et puis, on a des chances de pouvoir le voir de temps en temps, parce que avec une longue vue, ça permet quand même d'observer loin, et c'est ça qui est intéressant aussi.
Et dans cet objectif-là de sensibiliser, est-ce que du coup vous limitez les groupes aussi ? Vous partez pas à 30, 40 ou 50 ?
Non. non, je pars, je limite justement les groupes à 9, 10 personnes maximum. Et chaque année d'ailleurs, je me pose la question aussi de vouloir faire des groupes encore plus petits. Mais c'est compliqué parce que il y a beaucoup de demandes aussi. Ça sert à rien d'avoir trop de monde parce que ça va perturber plus qu'autre chose. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre la taille du groupe et le dérangement que ça pourrait occasionner.
Vous faites aussi des soirées astro. Donc là, je suppose qu'être dans une réserve internationale de ciel étoilé, pour vous, c'est du bonheur.
C'est... c'est juste parfait.
Qu'est-ce que vous proposez dans ces soirées ?
Là, on fait une randonnée. Pareil, c'est en fin de journée où on se retrouve. On part randonner. Alors, il y a plusieurs secteurs où je vais, histoire de changer un peu de temps en temps. Et on va se poster sur un coin un peu dégagé, donc souvent au cœur du parc ou à la limite à la zone d'adhésion. Et on attend que la nuit tombe, on prend un pique-nique avec le coucher du soleil, et après on observe au fur et à mesure l'apparition des étoiles. Et il y a toujours plein de questions là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui émerveille et qui pose toujours plein de questions. Et c'est d'ailleurs assez touchant aussi de voir que les gens n'ont plus trop accès au ciel. C'est-à-dire que l'été, j'ai beaucoup de gens qui viennent de grosses villes, dont Paris, où ils découvrent pour la première fois ce que c'est que la Voie lactée, parce que ils l'ont jamais vu, ou alors ils s'en souviennent plus. Mais et du coup, c'est toujours un peu émouvant de se dire c'est quelque chose qu'on a perdu et qui est quand même fantastique à observer et à voir, quoi.
Justement, vous avez la marque Esprit Parc. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? C'est quoi, un référencement, un label, gage de qualité ?
Alors c'est vrai que moi je suis plus rentré par la marque Esprit Parc parce que j'étais déjà beaucoup en lien avec le parc national, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sorties avec eux, déjà juste moi à titre personnel quand j'ai passé l'accompagnateur à Moyenne Montagne, je me suis formé aussi plus aux connaissances naturalistes en faisant plein de sorties avec le parc, donc j'ai rencontré beaucoup de gardes moniteurs dans mon secteur.
C'était quand ?
C'était en 2019, enfin ces environs-là.
Donc après le label RIS, donc ça vous a...
À peu près en même temps, ouais. Ça a été à peu près au même moment, parce que j'ai commencé les sorties astronomie, je crois, en 2018, et j'ai eu vraiment le diplôme l'année d'après.
Donc en plein moment, là, vous avez
donc,
profité.
Oui, c'est ça. On s'est lancé un peu en même temps, et justement, il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et c'est vrai que on a partagé pas mal de choses avec le parc. Il y a eu des formations aussi sur la nuit auxquelles je suis allé, histoire de rencontrer aussi du monde et d'apprendre de nouvelles choses. Parce que j'étais moins formé peut-être sur la faune la nuit. Et en fait, avec tous ces échanges-là, au bout d'un moment, c'est devenu presque naturel de prendre la marque, parce que c'était comme prendre un gage d'échange avec le parc, en fait.
J'ai vu sur le stand tout à l'heure, donc vous aviez un ordinateur, on pouvait voir des pièges photographiques, des animaux. Ça intéresse aussi le public. En tout cas, vous êtes pris au jeu vous-même et ça intéresse les gens.
J'ai une autre sortie justement qui est marquée Esprit Parc aussi sur les traces des animaux, où on va faire un tour en forêt, où on cherche un peu tout ce que les animaux peuvent laisser derrière eux. Pas forcément du coup que les empreintes, mais en fait il y a plein de marquages de territoire, même que ça soit chercher des crottes aussi dans la forêt, savoir à qui c'est. Ça intéresse toujours pas mal de monde aussi, et beaucoup les enfants. Ça fait un peu de détective dans la forêt. Et effectivement, il y a l'outil des pièges photographiques, qui est un outil quand même assez pratique aussi, parce que ça permet de vérifier toutes ces traces qu'ils ont laissées derrière. On va poser le piège photo à un endroit un peu stratégique où les animaux passent souvent, et vérifier que bien passer par là, et c'est vrai qu'on voit un peu la vie intime des animaux dans la forêt. C'est un peu à double tranchant des fois, parce qu'on observe un peu sans leur autorisation.
C'est du voyeurisme.
Il y a un petit côté comme ça. Mais c'est vrai que ça rapproche aussi de la nature, parce que on observe des choses qu'on n'aurait pas pu observer autrement. Et il y a un côté fascination aussi. Et finalement, ça peut ramener des gens à plus observer et à vouloir en savoir plus.
À comprendre et puis à voir l'importance, pourquoi il faut les préserver justement.
Exactement, oui.
Donc Gaëtan, Manuel, donc voilà, c'est la marque Esprit Park, c'est des produits agricoles, c'est des produits touristiques. Donc Edwige, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans. Je me projette. Ça fait 10 ans, le parc national des Cévennes a fait partie des premiers parcs à s'engager, on le constate aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ça fait 10 ans que la marque a été lancée dans l'ensemble des parcs aujourd'hui. Et que comme on était notamment très engagé dans le tourisme durable, on a tout de suite, on s'est impliqué dans la marque, aussi bien sur le tourisme que sur le volet agricole, pour justement façonner cette marque, définir les cahiers des charges, parce que chaque produit qui est marqué répond à des critères bien précis qui permet aux consommateurs d'avoir une garantie sur les produits qui sont marqués Esprit Park. Et donc on s'est impliqué pour faire tous ces cahiers des charges dès le début, et que pour encore aujourd'hui et encore pour longtemps, je pense, la marque, c'est un pilier essentiel de notre action. Et je pense que quand j'ai écouté Manuel et Gaëtan, tout a été dit dans ce qui est important de la marque. On a entendu que vous étiez attaché à votre territoire, que vous en parlez avec des mots qui sont vraiment forts et vivants. Et la marque Esprit Park, dans tous les parcs, hein, c'est sa caractéristique forte. C'est qu'on travaille avec des professionnels qui sont très attachés à leur territoire, qui sont attachés à prendre soin de ce territoire. On entendait en ayant des pratiques agricoles qui sont respectueuses, en accompagnant les visiteurs, en prenant vraiment le plus de garanties possible pour que ça ne dérange pas les milieux qu'on a envie de mieux connaître. Du coup, ça, c'est vraiment la marque. Et puis, un dernier point que a particulièrement expliqué Manuel, c'est l'envie d'avoir un lien, de partager quelque chose avec le parc national. Et ben, tout ça, c'est ça, la marque Esprit Park qu'on a trouvé là.
Est-ce que le cahier des charges évolue tous les ans ou finalement il est parfait et vous ne le changez pas ?
Alors les cahiers des charges, on est attaché à ce qu'ils aient une stabilité et à la fois, on est entre deux en fait. Mmh. C'est qu'il faut qu'ils soient stables parce que les produits qui étaient marqués hier, il ne faut pas qu'ils se retrouvent à plus pouvoir être marqués. Et à la fois, d'une part, on affine notre perception avec l'exercice, et puis d'autre part, on voit qu'il faut qu'on renforce certaines exigences. Et là, on est en discussion inter-parc, parce que tous ces cahiers des charges sont définis avec tous les parcs nationaux, les 11 parcs.
On était des professionnels aussi.
Et des professionnels. Et donc, typiquement, là, les hébergements, on est en train de voir par rapport à la question des piscines, comment on renforce nos exigences, parce que écotourisme, piscine, ça va pas toujours de soi, et à la fois c'est pas forcément antinomique, tout dépend de comment si on reste sur cet exemple des piscines, comment c'est géré. Du coup on est en train de voir comment affiner nos exigences pour avoir une marque qui a un vrai sens aussi.
Et comment ça se passe? C'est donc plus les exploitants, mais bon, je dis exploitants, je crois que je me fais comprendre puisque ça représente beaucoup de choses évidemment, qui viennent vous voir, ou c'est vous qui démarchez aussi? Et si c'est les deux, quel est le ratio?
Alors c'est vraiment de l'entre-deux. Il y a beaucoup de professionnels du territoire qui viennent nous voir, qui ont entendu parler de la marque par leurs voisins, par leurs parents. Voilà, on avait Gaëtan qui nous disait ça tout à l'heure. On peut aussi, comme aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a une heure, c'est que l'Office du tourisme a proposé à ses adhérents, à les professionnels du tourisme, de venir rencontrer des collègues du parc spécialisés dans la marque pour parler de la marque, faire connaître la marque. Et du coup, peut-être que de cette rencontre, dans les mois qui viendront, on aura des nouvelles personnes qui voudront rentrer dans la marque.
On le souhaite.
Ouais.
Et juste dernière question, donc encore peut-être augmenter le nombre de produits. On est déjà à 300. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs dans les années à venir?
En fait, notre objectif vraiment principal, on ne cherche pas forcément à faire des high scores de produits marqués. On est attaché à ce que, quand on entend les professionnels qui ont la marque, on le sent que pour eux, le lien avec le parc, c'est important. Du coup, un de nos objectifs principaux, c'est de nourrir ce lien. Donc, c'est de se rencontrer au moins une fois par an, de proposer une rencontre par an, c'est de faire des choses avec les personnes qui ont des produits marqués, par exemple en faisant des animations ensemble, en faisant des ateliers ensemble. Et pour nous, ça, c'est vraiment important. Donc dans les priorités, il y aura ça. Après, plus la marque se développe, plus le territoire est visible comme un acteur dont les producteurs, les professionnels du tourisme, dans d'autres parcs, il y a des produits artisanaux. Nous, pour le moment, on n'a pas choisi de développer ça, mais sont engagés. Du coup, c'est important pour un territoire. Après, c'est clair que ça soulève aussi des questions de moyens. Que peuvent avoir les parcs nationaux parce que faire accueillir des nouveaux produits dans la marque, c'est faire passer des audits, c'est des démarches administratives, etc. Ça soulève toutes ces questions. Faire des contrôles régulièrement, parce qu'on est aussi attaché à ça. Mais voilà, comme c'est important pour nous, on espère pouvoir continuer de dégager les moyens pour accueillir toujours des nouveaux professionnels dans la marque.
Eh ben, nous terminerons sur ces mots. Et merci à tous les trois. Donc, je rappelle, Gaëtan Rayan, donc du GAEC de l'AISU à Mandagou. Donc, on retrouve tous les samedis au Vigan et peut-être ailleurs aussi. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits?
On fait que les marchés du Vigan. Et demain, il y a Miel et Frigou. Du coup, on aura un stand aussi. Et le week-end prochain, la foire à pomme l'oignon. Et après, c'est les vacances.
Bon, mais il faut en prendre aussi, vous avez raison. Et donc, Manuel Jacquet à Pas de Loup. Je vous renvoie sur le site pour les sorties. Si on veut faire une sortie, comment on fait?
Eh bien oui, on peut aller sur mon site internet.
Et puis il y a le site de la marque aussi.
Cévennes.fr et effectivement sur le site de la marque Esprit Park. On peut me retrouver également.
Merci à tous les trois et bonne continuation.
Merci.
Merci. Merci. Of the ones we love, dovetail our generosity, equalize the flow with our hearts. We chisel quartz to.
Et nous sommes de retour donc sur le plateau de Radio Bartas pour la journée avec le parc où nous allons maintenant parler de patrimoine. Je n'en dis pas plus pour le moment. Pour cela, je suis en compagnie de Mathieu Ancet, directeur de l'Office de tourisme qui nous accueille. Merci Mathieu et bonjour.
Merci à vous.
Je suis en direct... Et je suis également accompagnée de Marie Igremaud, qui est guide conférencière et qui, dans quelques minutes, va accompagner une balade.
Tout à fait.
Et je suis également en compagnie de Sabine Rosier, donc du Centre de pomologie d'Alès. Bonjour.
Bonjour.
Donc, nous allons commencer tout de suite par parler de patrimoine des patrimoine culturel. Alors, quelles sont les richesses culturelles du Vigan? Alors, quand on vient visiter le Vigan, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manquer?
Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de patrimoine sur le Vigan, donc on va en sélectionner quelques-uns parmi les plus représentatifs, en tout cas les plus parlants pour les gens. On peut parler par exemple du château d'Assas, qui se trouve pas très loin finalement de l'office de tourisme. Château d'Assas, donc, qui abrite depuis quelques années maintenant la médiathèque du Vigan, qui est un lieu à part entière de la vie culturelle du Vigan, avec des concerts, des expositions qui y sont régulièrement faites. Et qui a une histoire assez ancienne, puisqu'il a été construit au XVIIIe siècle par un héritier d'une grande famille du Vigan, la famille de Faventines, et qui est assez impressionnant par ses dimensions, son architecture, qui dénote vraiment pour la petite ville de province qu'était à l'époque, en tout cas, le Vigan. Après, comme autre bâtiment, on peut citer bien entendu le musée Cévenol, quand même un fleuron du patrimoine, des traditions locales, en tout cas des Cévennes viganaises et des Causses aussi, qui en plus est dans une ancienne filature de soie, donc qui fait le lien direct avec cette histoire et ce patrimoine cévenol de la sériciculture. Donc une ancienne filature du 19e siècle également, et c'est depuis 1963 que le musée Cévenol est abrité en ses murs. Voilà. Et Mathieu, je ne sais pas si tu veux compléter.
Mais, oui, vous pouvez compléter. J'avais une question, mais allez-y.
Non. Je dirais juste qu'effectivement, le patrimoine architectural au Vigan ne fera pas forcément au premier regard, puisque la ville a connu beaucoup d'événements dans son histoire, et c'est justement via, et donc là je fais forcément la promotion de la visite que ma collègue fait juste après, mais c'est via une visite commentée et guidée qu'on découvre toute la richesse de la ville, et ça n'en manque pas.
Et justement, elles sont prisées, les visites guidées. Donc on a vu ce matin, il y avait beaucoup de monde au Vigan. Bon, on se dit, ok, il y a le marché, il y a peut-être des habitants, mais il y a des touristes en ce moment. Enfin, la fréquentation touristique, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu?
Oui, bien sûr. Alors, fréquentation touristique, elle est présente effectivement en ce moment. On est un territoire depuis quelques années dont la fréquentation a largement évolué sur une diffusion toute l'année, avec un bassin de fréquentation de proximité, avec un bassin notamment montpelliérain. On a la chance d'avoir une ville comme Montpellier qui connaît énormément de nouveaux habitants chaque année, donc autant de nouvelles personnes qui viennent découvrir à 40 minutes de chez eux un territoire comme le nôtre. Donc c'est tous les week-ends de l'année qu'on peut venir découvrir des paysages cévenol comme les nôtres et sortir des villes. Donc on a une belle fréquentation toute l'année.
Et les habitants, est-ce qu'ils connaissent leur patrimoine? Des fois, c'est les plus mal lotis, en fait. Ils ne sont pas au courant de la richesse et des beautés qui sont juste à côté de chez eux.
Alors effectivement, oui, c'est pour ça qu'on opère aussi auprès des écoles. Donc Marie intervient beaucoup auprès des écoles, je l'ai fait moi aussi par le passé, et c'est vrai qu'on était frappés en général à chaque fois sur un volume d'une vingtaine de d'enfants. On en avait bien cinq qui n'allaient pas découvrir le territoire, voilà, qui ne montaient pas forcément à l'Égoual, qui n'allaient pas jusqu'au Cirque de la Selle. Donc on leur fait découvrir, et ils viennent après justement le week-end avec leurs parents. Donc c'est toute la démarche qu'on essaye d'insuffler à l'office de tourisme depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on s'adresse bien sûr vers l'extérieur, mais notre ambition, c'est vraiment de s'adresser à l'intérieur et de participer un peu à la fierté de vivre ce territoire. Donc c'est une démarche de marketing territorial, hein, comme on évoque. Mais voilà, on essaye de mettre ça en avant, notamment à travers notre magazine, où on met en avant certains portraits de territoire et qui parlent autant à l'habitant et qui participent de la fierté d'habiter ici.
Marie, c'est le patrimoine du Vigan qui vous a donné envie de devenir guide conférencière, ou bien vous venez d'ailleurs et puis au final vous êtes arrivé ici et vous vous dites « Ah là, il y a quelque chose à faire ».
Alors, pour synthétiser, ça fait 10 ans que j'ai ma carte de guide conférencière. J'ai des attaches familiales, alors plutôt du côté du Larzac, mais du coup j'ai quand même un peu rayonné sur le territoire sud-Cévennes. Et c'est un goût de toute façon pour le patrimoine de façon générale et l'histoire qui m'ont donné envie de m'orienter dans cette voie-là. Et c'était un souhait que j'avais depuis assez longtemps, jusqu'à ce que l'occasion se présente, qu'il y ait un poste libre au sein de l'Office du tourisme. C'était un souhait de ma part, effectivement, si possible, de venir m'installer sur ce territoire que j'avais toujours plus ou moins connu. Mais moi, la première, et ça rejoint ce qu'on disait à la question précédente, j'apprends toujours et je découvre toujours de nouvelles choses sur le territoire, que ce soit en termes de patrimoine ou d'activité. Donc c'est très chouette d'avoir eu cette opportunité et j'espère pouvoir continuer encore longtemps à le faire découvrir.
Donc on a parlé de monuments. Mais il y a aussi il y a l'art, il y a la rivière, mais il y a aussi le chemin de Saint-Guilhem qui passe par la commune. Donc ça, c'est autant d'atouts aussi pour les habitants, enfin peut-être plus les touristes en l'occurrence.
Touristes aussi, on l'a vu après le Covid, surtout il y a eu un essor de l'engouement de la randonnée, je crois que ça s'est vérifié un petit peu partout, et l'itinérance c'est quelque chose qui depuis quelques années séduit énormément, il y a un public de plus en plus large, en discutant avec les associations locales, la Fédération Française de Randonnée, il y a un public qui se rajeunit. Parce qu'on a encore l'image un petit peu d'un public de randonnée club 3e âge, ce qui n'est pas forcément encore très vrai à l'heure actuelle. Et les gens sont vraiment en quête d'avoir ces petites aventures à deux pas de chez eux, où ils peuvent découvrir une variété de paysages. Et effectivement, le 5e est assez représentatif là-dessus, puisqu'on part d'Aumont-Aubrac, et après on atterrit sur les Causses, et puis on descend après dans les vallées viganaises pour rejoindre après 5e. Donc là, vraiment une diversité de paysages et de patrimoine, justement, assez, assez exceptionnelle.
Et donc plus généralement dans le pays véganais, il y a d'autres monuments. Donc c'est l'oignon doux et les pommes. Alors est-ce que c'est spécifique ou pas?
Alors il y a une vraie tradition agricole et autour de l'arboriculture fruitière, oui, sur le Vigan, la vallée du Vigan. Elle est connue pour sa rainette du Vigan. Mais pas que. Hein, on trouve vraiment pas mal de variétés. On trouve également des châtaignes. Vous avez un petit verger conservatoire de châtaignes à Homessas, pas très loin d'ici, donc avec quelques variétés aussi intéressantes. Mais oui, tout à fait, il y a une vraie tradition arboricole sur le Vigan. On est sur des vallées assez grandes, ouvertes, donc ça permettait de cultiver pas mal de variétés.
C'est le terroir qui fait le climat, il y a plusieurs facteurs.
Il y a en effet le climat, hein, il fait relativement chaud. Le fait que ce soit cultivé dans les vallées, elles ne manquent pas d'eau, puisqu'elles sont dans la vallée de la rivière, en fait, elles sont au bord de la rivière, donc elles ont cet avantage-là. Sur le Vigan, il y a une vraie tradition d'arboriculture à but de vendre. Par rapport à d'autres zones des Cévennes, où on est plutôt sur une agriculture vivrière où le verger vient la puce pour
la famille.
Ici, sur le Vigan, on avait une vraie arboriculture pour exporter, en fait, pour alors sortir du territoire, quoi.
Donc, vous l'avez dit, hein, la pomme, la variété emblématique, c'est la rainette du Vigan. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette rainette du Vigan?
Alors, on va parler de la rainette Vigan ancienne. Donc, celle qui a été cultivée pendant des siècles. Donc, c'est une pomme qui est, on va dire, de calibre moyen. On est sur un calibre de 7 cm et demi à 8 cm. Donc on est sur un type rainette, c'est-à-dire on a un fond jaune qui est couvert de russeting. Ce qu'on appelle le russeting, c'est cette petite marque un peu rugueuse qu'on trouve dessus. Et dans le cas de la rainette du Vigan, on a une joue rouge. C'est joli comme nom, mais c'est tout à fait ça. C'est une partie qui se colore donc à l'insolation. Donc cette pomme, elle a une capacité à se conserver en hiver. Donc vous la ramassez à l'automne et vous allez pouvoir la consommer jusqu'au mois d'avril sans problème.
Et il y a une façon de la consommer peut-être
Alors, meilleure. Elle est très bonne crue, mais elle est excellente cuite aussi. Hein. C'est vraiment une variété ce qu'on appelle une variété à deux fins. C'est-à-dire qu'elle a deux utilisations principales, à croquer et à cuire.
On sait combien il y a de variétés à peu près de pommes sur le pays viganais?
Alors, je dirais qu'au niveau Cévenol, on est à plus d'une cinquantaine de variétés de pommes quand même. Donc, sachant que en Cévennes, on a vraiment différents territoires et que souvent, elles se sont adaptées en fait en fonction de ce territoire un peu à des altitudes différentes, à des ensoleillements différents. Hein, selon si on est en Ubac ou en Adré, on va avoir des variétés différentes.
Est-ce que ce patrimoine culinaire, pour le coup, est protégé? Est-ce qu'il y a de la transmission? Est-ce que ça se passe bien? Ou alors est-ce qu'il peut être en danger aussi?
Alors il est souvent en danger. Dès lors qu'on parle des variétés locales, voilà, on a toujours... donc il y a eu une grosse perte de ces variétés, généralement au début du XXe siècle. En fait, quand on est passé à une agriculture qui est beaucoup plus moderne, qui se mécanise en fait, ben, ces vieux vergers, ils sont un peu embêtants pour faire passer le tracteur souvent. Hein. Donc malheureusement, on a eu beaucoup de pertes de ces vieilles variétés voilà, à ce moment-là. Mais heureusement, je dirais, en Cévennes, la mécanisation est quand même difficile. Bon, peut-être un peu plus dans la vallée du Vigan, mais un peu moins dès lors qu'on est sur le piémont cévenol. Donc on a la chance d'avoir pu garder vraiment ces variétés anciennes bien établies sur ce territoire. Je dirais qu'elles sont, elles représentent maintenant en plus un vrai enjeu territorial, dans le sens où, ben, on le sait, les Cévennes, c'est un territoire dur. Hein, il était dur pour les hommes, mais il était dur aussi pour les variétés qui s'installaient. On est sur un territoire qui est ingrat, pauvre. Hein, les terres acides, c'est vraiment... Ça a besoin d'eau, ben, ça n'en trouve pas. Donc finalement, ces variétés locales, maintenant, elles représentent un véritable enjeu face au changement climatique. Mmh. Parce que, ben, elles ont été forgées, hein, à cette difficulté de trouver de l'eau en été quand il fait très chaud. Elles s'adaptent. Les gelées tardives, ben, souvent, elles ont généralement une floraison un peu plus tardive, ce qui fait que ça les met à l'abri des gelées. Donc on a un vrai enjeu maintenant de ces variétés anciennes, parce que, ben, elle représente vraiment une adaptation déjà à ce changement climatique qui arrive, quoi, qui est là d'ailleurs.
Et justement, est-ce qu'il y a dans la région la mise en place de vergers conservatoires pour préserver ces variétés?
Alors, oui, tout à fait. Le parc national, donc, est en train de créer un réseau de vergers de sauvegarde pour créer justement un conservatoire labellisé verger conservatoire. Donc il y a plusieurs, donc, sur le territoire du parc, il y aura un chaînage en fait entre différents vergers. Alors pourquoi différents vergers? Ben, d'abord parce qu'il faut de l'espace pour maintenir des variétés en sauvegarde. Hein, pour information, on n'est pas sur de la graine, on est sur de l'arbre. Donc il faut le maintenir vivant si on veut pouvoir le reproduire et le sauvegarder. Donc ça veut dire mettre en place des vergers. Pour obtenir un label de verger conservatoire, il faut minimum 3 arbres par variété. Donc ça représente encore un peu plus d'espace. Et donc le choix a été fait, voilà, de dispatcher sur différents lieux. Et il y a aussi un autre intérêt à ce système de réseau de vergers. C'est tout simplement parce que les Cévennes, c'est encore une multitude de territoires, que ce soit les Causses, que ce soit les vallées qui sont un peu plus en Haute-Cévennes, etc. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir vraiment une représentation de l'ensemble de ce patrimoine à l'échelon de son territoire. Et donc il y aura différents endroits qui seront représentatifs du patrimoine local, voilà, de l'arboriculture fruitière.
Mathieu, d'un point de vue touristique, la pomme, ça parle, ou on vous pose des questions, ça intéresse les gens?
Ah oui, effectivement, le terroir, de manière générale, les produits locaux, c'est un argument. En tout cas, moi le premier, quand je pars en vacances, en général, je regarde sur quel terroir je vais, est-ce que je vais pouvoir déguster.
Ce qu'on va pouvoir manger.
Ce qu'on va pouvoir manger. Donc oui, la pomme, l'oignon, la châtaigne, ce sont des produits qui plébiscités et dont on nous demande très souvent justement chez quel producteur on peut aller découvrir le produit, est-ce qu'il y a des visites d'organiser justement aussi, donc oui, c'est ça.
Et ben, d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a la foire de la pomme et de l'oignon. Nous, je vais en faire, en tout cas, c'est des produits qui sont ici vraiment valorisés dans des foires, des marchés, enfin c'est assez valorisé. Hein.
Oui. Très grande manifestation, la foire de la pomme et l'oignon, qui, bon, voilà, qui a plusieurs décennies derrière elle, qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Donc c'est aussi un coup de projecteur mis sur le territoire, justement mis à travers des produits. Donc on a un peu cette tradition à l'automne dans notre secteur. Voilà, on valorise vraiment le terroir à l'automne et aujourd'hui on fait partie.
Oui, ben voilà, les mauvaises langues qui disent qu'on s'ennuie au Vigan. Ben venez à la foire, la semaine prochaine.
Exactement.
Ben c'est sur ces mots. Sabine, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais juste ajouter que le centre de pomologie fera un petit atelier pédagogique à la médiathèque samedi matin prochain.
Eh bien, c'est noté. Et puis, donc, la foire de la pomme et de l'oignon doux, le samedi prochain.
Le samedi et le dimanche, donc le grand marché le 19 et effectivement le 18, plusieurs animations, dont celle qui vous a été présentée.
Mais merci à tous les deux et bonne continuation.
Merci. Merci.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, ça tourage avant l'été, sa chupine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur et tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand se pond entre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, que tu vives ou que tu meurs? Faut que tu crèves de bonheur ou qu'il change de godasse, que tu croules sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.
Et nous sommes de retour en direct donc dans les locaux de l'Office de tourisme du Vigan pour la journée avec le parc. Et donc nous allons maintenant parler d'une exposition qui s'intitule Bux Bomia. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais qui est actuellement visible au château d'Assas. Et donc je suis en compagnie de Cédric Gerbeuet, je prononce bien.
C'est ça.
Donc photographe, et Cyril Rombaud qui est donc garde-moniteur sur le massif de l'Aigoual. Bonjour. Bonjour. Alors pour résumer, hein, donc, Cédric, vous avez été invité en résidence par Image Singulière, donc, qui a posé ses valises l'année dernière en Cévennes, à Homesas, et vous avez été le premier artiste invité. Et donc d'octobre à 2024 à mai 2025, donc ce printemps, vous avez arpenter le territoire à la rencontre des habitants, à la découverte des paysages. Et donc l'exposition est actuellement, votre travail est actuellement visible au château d'Assas. Donc bah, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez vu, qui vous avez-vous rencontré dans les Cévennes, qu'est-ce que vous retenez de vos pérégrinations sur le territoire?
Alors bonjour, d'abord c'était une découverte. 48 heures avant d'arriver dans les Cévennes, j'étais au Pakistan sur les, sur les routes de la soie. Ça faisait un lien plus que symbolique avec, avec la région. Et Gilles et Valérie d'Image Singulière m'avaient donné une carte blanche. Je ne connaissais absolument pas les Cévennes, je n'y étais jamais venu. Et en arrivant, ben déjà j'ai découvert un paysage qui était brumeux. à l'époque. Et je suis arrivé avec ma voiture. Donc j'ai traversé la France. J'ai fait l'équivalent de 900 bornes, je crois, qui est un temps, voilà, pour arriver jusqu'ici. Et je logeais à Homsas, qui était l'épicentre de la résidence. Et tous les matins, je prenais mon véhicule et je parcourais les routes sinueuses, parfois embrumées, parfois pas, pour rencontrer différentes personnes. Et chaque fois, ces personnes me menaient à d'autres rencontres. Me disait, tiens, en fait, est-ce que tu connais Philippe, l'apiculteur? Ah, tu devrais le rencontrer, lui, c'est un vrai Cévenol.
C'est un vrai Cévenol.
Alors, je ne sais pas ce que sont les vrais Cévenols, je ne sais toujours pas si je les ai rencontrés. En tout cas, j'ai rencontré des très, très belles personnes qui, assez... alors, comment est-ce que... On m'avait dit qu'ils c'était des rebouteux, c'était un terme qu'on utilisait ici, que c'était des grandes gueules, des caractères forts. Et puis on a commencé à me parler de la différence entre ce qu'on considérait être les Cévenols depuis plusieurs générations, alors qu'il y avait de plus en plus de néo. Et donc je rencontrais des gens qui avaient des activités et qui occupaient le territoire de manière tout à fait différente. Je parlais d'un apiculteur, mais il y avait des bergers. J'ai rencontré quatre bergers différents à des lieux, à des endroits, dans des villages qui pratiquent leur métier différemment. J'ai passé du temps avec des chasseurs. Je les ai accompagnés à la chasse, je les ai retrouvés au local. Et une partie du temps, je l'ai également passé avec Cyril,
voilà,
qui
oui.
est garde-moniteur. Mais voilà, peut-être qu'on peut, on peut faire le lien comme ça. Et ça a été une rencontre, une découverte. Et ça a guidé mes pas. Et ça a même amené au titre du travail. Et ça a été pour moi une véritable ouverture sur quelque chose de nouveau. Puisque moi, j'ai pour habitude de photographier des personnes, des êtres humains. Donc je me rapproche toujours dans cette relation proximale. Et Cyril, lui, il protège la faune, la flore, et il s'inscrit dans le territoire. Et je l'ai accompagné, je me suis laissé totalement guider véritablement, puisque sans lui, j'étais perdu. Et on a découvert, lui, ça fait partie de son quotidien, mais moi, j'ai découvert le parc, la forêt, j'ai découvert des plaines, la plaine du Lingas. On est parti sur les traces du loup aussi. Et des choses qui, pour moi, quand bien même je voyage, je reste un citadin. Et ça a été une vraie découverte d'un territoire. Territoire qui, et ça je l'ai découvert, n'est pas défini. Les gens disent « Ah, mais les Cévennes, ça commence là et ça termine là. Ah non, non, mais il faut inclure tel cos. Non, non, ben non, non. » Et donc chacun a une idée plus ou moins claire et définie de où commencent et où terminent les Cévennes. Et pour moi, c'est un pays imaginaire.
Et justement, donc Cyril, comment s'est passée cette rencontre? Enfin, voilà, dans quelle mission tu étais? Enfin, on en parle, hein, la Bux Baumia, tu vas nous expliquer, mais voilà, comment s'est fait cette rencontre?
Ben, en fait, Cédric, il est arrivé à une période où c'est censé être un peu plus calme pour nous au niveau du travail. En fait, en réalité, maintenant, il n'y a plus de période calme, hein, parce qu'en fait, on a une telle quantité de missions à faire qu'en général, on est toujours occupé. En l'occurrence, c'était une période où je passais beaucoup de temps dans la forêt pour marquer des arbres d'intérêt écologique, pour faire ce travail préalable avant les coupes forestières, pour indiquer les enjeux en termes de biodiversité dans la forêt. Donc du coup, bah, je lui ai dit, bah, écoute, puisque tu veux m'accompagner sur une de mes missions, je te propose, bah, on va aller dans la forêt et puis on va aller au contact un petit peu de ces espaces un peu sauvages, un peu méconnus dans les Cévennes, puisque vous le savez peut-être déjà que le parc national des Cévennes s'est créé au début des années 60 pour sa valeur agro-pastorale, mais on avait un peu oublié la forêt à cette époque-là. Enfin, en tout cas, elle était un peu en second plan. Or, nous, sur le massif de l'Aigoual, c'est peut-être le trésor le plus précieux qu'on a actuellement, c'est la forêt. En tout cas, c'est central. Et on commence à avoir de la forêt, ce qu'on appelle de la forêt ancienne, avec des espèces qui sont liés à l'ancienneté forestière, à la continuité de la forêt, à des bouts, des lambeaux de forêt qui, avant le 19e siècle, étaient encore présents, et où se cachent toutes ces espèces un peu mystérieuses, toutes petites, dont cette petite mousse minuscule qui s'appelle la Bux Baumii.
Elle ressemble à quoi?
Alors, ça ressemble... C'est quand on voit une mousse, on imagine quelque chose de vert, un peu hirsute, humide, etc. C'est totalement l'inverse pour la Bux Bomi, puisqu'on la voit pas en fait. C'est-à-dire que la partie mousse, on la voit très mal. C'est une espèce de petite croûte noire qui est quasiment insignifiante. Les seules choses qu'on va voir, c'est les fructifications de mousse, les sporophytes, ces espèces de toutes petites capsules qu'on voit au bout d'une petite tige très, 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 très élégante quand on les regarde de près. Et c'est cette capsule qu'on arrive à trouver sur le terrain. Et qui est petite, certes, mais par rapport à d'autres mousses, qui est bien plus grosse que la plupart des mousses, en fait. Ça fait une capsule à peu près de la grandeur d'un grain de riz. Voilà.
Et elle est très rare.
Elle est rare, elle est protégée. En fait, quand l'habitat est présent, c'est comme toutes les espèces rares, quand l'habitat est présent, elle n'est pas si rare que ça. Mais le problème, c'est que cet habitat dans lequel elle existe, c'est un habitat qui a tendance à disparaître. On dit qu'en France, la forêt, elle a tendance à croître. On a de plus en plus de massifs forestiers. Mais en fait, de la forêt ancienne, on en a de moins en moins. Puisqu'en fait, la forêt est exploitée. Elle a tendance à être exploitée jusqu'à des monocultures forestières. Et des forêts qui sont en libre évolution ou qui sont gérées avec des modes d'exploitation qui sont, dans la continuité de l'écologie forestière, il n'y en a pas tant que ça sur le territoire.
Pourquoi, Cédric, avoir donné le nom de votre exposition à cette mousse ? Vous l'avez dit tout à l'heure, pour vous, c'est vraiment une découverte ?
Oui, c'était une découverte. Alors, j'ai voulu d'abord trouver un titre qui était lié au silence. Parce que pour moi, il y avait du silence. C'était un lieu calme, c'était une région où on pouvait encore entendre le silence. Et... quand j'en ai parlé, certaines personnes m'ont dit « Mais non, pas du tout, il y a plein de bruit, la forêt fait du bruit, les animaux font du bruit, la pluie fait du bruit, le vent. » Et je sentais que ça ne correspondait peut-être pas à ce qui était vécu par les personnes qui habitent ici. Et un jour, Cyril, qui est occupé à délimiter des endroits, à marquer des arbres, je me retourne et il est dans une position, une sorte d'asanas de yoga qu'il a créé, je pense, tout seul, littéralement couché comme une forme de respect par rapport au vivant et à la nature, et il est en train d'observer une mousse avec une petite loupe. Et d'ailleurs, il y a une photographie qui fait partie de la scénographie de l'exposition, et on le voit vraiment dans cette forme. Et il fait partie de la nature. C'est pas très clair, et c'est ça qui pour moi me semble intéressant, c'est que à nouveau la photographie permet de poser des questions, d'autant plus ici puisqu'il n'y a pas de légende qui accompagne les images. Et en fait, il est en train d'observer cette mousse. Alors, il a partagé sa loupe, il m'a montré, je l'ai photographié de plus près, j'ai essayé de photographier cette mousse. Comme il le dit, c'est 0,5 cm à peu près, donc c'est très difficile à photographier. Et cette attention portée à la nature, mais cette attention portée au vivant, me semblait être au cœur finalement de ce qui se passe ici, et cette possibilité pour moi de raconter quelque chose. Je m'y intéresse au vivant, mais ce sont souvent suite à des tensions, à des conflits géopolitiques à l'étranger. J'ai pour habitude de travailler sur d'autres continents, et là, de manière tout à fait discrète, ou en tout cas sans prétention aucune, je retrouvais dans l'attitude que Cyril pouvait avoir au vivant un parallèle avec mon attention pour les personnes. Et je me suis dit que c'était peut-être la bonne manière de donner le nom de cette mousse qu'il protège en marquant les arbres qui sont censés être coupés par l'ONF, je parle sous ton contrôle, et il dit avec sa marque, soit il entoure certains arbres, soit la bombe qu'il a à la ceinture sur la photographie en question, il l'utilise, je crois que c'est de couleur jaune, et il va marquer les arbres, et il va marquer les arbres pour dire non, on ne les coupe pas, parce qu'alors trop de lumière arriverait et tuerait cette mousse, qui serait alors asséchée. Et donc le parallèle est devenu une évidence, d'où le nom du travail.
Oui, il nous reste très très peu de temps. Je me dis 8 mois de travail comme ça, de rencontres, etc. Est-ce que ça a été facile pour vous de choisir les œuvres que vous exposez? Et Sylvie, comment vous l'avez construite en quelques mots?
Alors, c'est sur une période de 8 mois. Ce sont des immersions qui duraient une semaine à deux semaines. Je suis venu 5 ou 6 fois, si mes souvenirs sont bons. La narration ou la construction du propos, elle se fait d'abord sur base des rencontres qui sont faites, des personnes que l'on veut mettre dans l'exposition et dans la publication, parce que le travail est également accompagné d'une publication, avec cette volonté aussi de tenter d'être dans un rapport avec une tension émotionnelle, puisque il n'y a pas de texte, il n'y a pas de légende qui accompagne les images. Ce n'est pas du photojournalisme, c'est un travail documentaire d'auteur qui essaye de retranscrire les Cévennes que j'ai découvertes et que celles que j'ai vécues et qui m'ont été données de découvrir et de partager. Il est évident qu'un autre photographe raconterait d'autres Cévennes. À la fin de la publication, il y a un entretien avec Gilles Favier qui lui me dit, mais finalement, il vit à Oumsas, et il me dit, mais moi, ce ne sont pas mes Cévennes. Et j'ai dit, ben non, loin de moi la prétention de dire c'est ça les Cévennes. C'est la perception sensible que j'ai pu avoir. C'est également un lieu où je suis venu en famille. D'ailleurs, dans le cadre du travail, il y a mon beau-fils qui est aussi présent. C'est les rencontres que j'ai pu faire, pas uniquement dans la forêt, mais ici au Vigan, dans les rues ou dans des villages éloignés. Au final, on tente de rendre compte de quelque chose en un groupe d'images. Aujourd'hui, on va faire une visite avec Cyril. On en a fait précédemment. Il y a eu un vernissage, il y a eu une projection à Oumsas pour les gens du village. Et c'est toujours intéressant et c'est très particulier pour un photographe parce que d'habitude, je photographie à l'étranger et j'ai pas toujours l'occasion de rencontrer les personnes que j'ai photographiées. Et ici, il y a une attente. D'autant plus que la résidence d'Images Singulières, c'est la première dans les Cévennes. Donc comment est-ce que ce travail va être reçu? C'est toujours, voilà, c'est toujours cette petite question, ce questionnement et cette tension qui est agréable.
J'ai une toute dernière question en 3 secondes. On ne l'a pas dit, mais votre exposition, c'est un travail en noir et blanc. Vous photographiez tout le temps en noir et blanc?
Principalement, oui.
C'est... Pourquoi? Enfin, je...
Ah, alors la question...
En trois secondes,
ça va être... je vous répondrai simplement que j'aime le noir et blanc, et je pense que c'est ça le plus important, c'est ce qui me touche. Après, les réponses évidentes qui viennent toujours à chaque fois, c'est la même chose. Alberto Moravia, auteur de littérature érotique italien, disait « La réalité est en couleur, mais le noir et blanc est plus réaliste ». Et je peux vous en donner d'autres. C'est comme ça que je perçois le monde, c'est ce qui m'intéresse. Et j'ai l'impression que le noir et blanc va à l'essentiel. Il n'y a pas de pollution du regard.
Ouais.
On ne caresse pas dans le sens du poil et on n'est pas attiré par ces couleurs qui viennent flatter le regard.
C'est brut.
Et puis c'est l'hiver. Où il est venu. Et je trouve que c'est très très bien de l'avoir.
Et la brume en blanc, c'est quand même mieux.
Non, mais ça donne une atmosphère différente, ouais. Et mais... qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les Cévennes, qui sont toujours très colorées, oui. très dans les verts, les bleus. Hein.
Et puis il y a des rencontres et des portraits. Je pense que les portraits en couleur seraient tout à fait différents dans la perception qu'on peut avoir des personnes que j'ai rencontrées, notamment le portrait de Cyril, qui est photographié dans la brume.
Très bien, merci à tous les deux. Donc 15h30, 16h30, il y aura un dialogue entre vous deux, donc au château d'Assas. C'est la fin de cette émission. Merci Ben, et merci. C'était le dernier plateau puisque tu quittes Radio Bartas. Donc voilà. Merci.
Merci beaucoup à toi. Et puis c'est pour ça que j'aime bien venir ici, rencontrer vraiment des gens passionnants avec le parc Assas et les Cévennes. Voilà.
Bonne fin de journée.
Ciao à tous, et on était aussi chez nos copains de Radio Escapade.
Que l'on remercie chaleureusement.
Merci beaucoup, à bientôt.